Bonsoir chers auditeurs, ici Jean-Marie, le Walking Bluesman qui va vous accompagner pendant toute cette soirée avec quelques chroniques blues. Des chroniques qui seront essentiellement consacrées à la relation entre la radio et le blues. Je voudrais dédier cette série de chroniques à mon pote Gérard, avec lequel j'ai animé pendant 5 ans une émission consacrée au blues sur Radio Scarp Sensé, sur les routes du blues. Et ce, d'autant plus que nous avions déjà réalisé une émission sur le thème du blues et de la radio pour le 30e anniversaire de Radio Scarp Sensé, et que les 4 chroniques de cette nuit de la radio s'en inspirent beaucoup. Autre info qui pourrait peut-être vous intéresser, j'ai prévu de reprendre le cycle d'émissions sur les routes du blues prochainement, probablement début octobre si tout va bien. Première chronique, la naissance du blues. Pour cette grande nuit de la radio, je vous propose quelques belles étoiles, certaines filantes, d'une musique populaire issue d'une communauté parmi les plus souffrantes de cet immense pays que sont les États-Unis, les descendants des esclaves africains qui inventèrent le blues à la fin du 19e siècle, qui parviendra en quelques décennies par conquérir le monde et qui reste une musique extrêmement vivante. Belle revanche. Le blues naît donc entre 1890 et 1910 au cœur de l'État du Mississippi, dans les grandes régions de plantation de coton, là où les Noirs sont en nombre. Tous les pays sont le résultat de migrations, d'occupations, de conquêtes et donc au final de mélange de populations. Et les USA sont probablement plus qu'un autre, un pays de migrants. Les Amérindiens, il y a plus de 40 000 ans, puis les Anglais, Irlandais, Écossais, Français, Espagnols, Néerlandais, Allemands, Italiens, Russes, Polonais, Scandinaves et j'en passe, et j'en oublie. Et tous ont apporté un peu de leur culture, de leur musique, de leurs instruments. Jusqu'au milieu du 19e siècle, ce fut un melting pot culturel où tout le monde s'influençait mutuellement. Finalement, il s'est formé une sorte de fond musical commun et les chanteurs blancs et noirs finissaient par avoir le même répertoire qui va constituer la base de toutes les musiques nord-américaines. En plus des musiques traditionnelles, évidemment, qui continuaient d'être transmises. C'est la guerre civile, la guerre de sécession des années 1861-1865, qui va changer la donne. Elle va aboutir à l'abolition de l'esclavage, mais sera remplacée par une ségrégation raciale très dure dans les États du Sud. Les communautés vont se trouver séparées dans leur vie quotidienne, ce qui va bloquer toute possibilité d'échange du point de vue artistique. C'est dans ce contexte que les Noirs africains, les artistes noirs, vont être amenés à ne plus s'adresser qu'à leurs semblables et qu'ils vont créer des chants plus personnels, propres à mieux exprimer le mal de vivre de leur communauté. Mais on n'a pas de trace de ce blues des origines. La radio grand public n'apparaît vraiment qu'après la Première Guerre mondiale. De plus, les premières radios commerciales sont gérées par des Blancs et il n'y a pas de chance, ou très peu, qu'on y entende des Noirs. Et les premiers artistes noirs sur les ondes seront des jazzmen dans les années 30, Armstrong, Ellington, musique plus sophistiquée, plus urbanisée. Mais peut-être aussi le gospel, que l'aspect religieux rendait évidemment plus acceptable. Difficile donc de savoir à quoi pouvaient bien ressembler les premiers blues des années 1890. Peut-être que l'industrie du disque aurait pu nous aider, puisqu'elle naît autour de 1880 avec les inventions du disque et du gramophone. Sauf que le premier enregistrement d'une voix date de 1920 et ce n'était pas vraiment du blues. Néanmoins, on peut s'en faire une idée à partir primo des formes traditionnelles de chant noir qui se sont transmises de génération en génération sans quasiment évoluer, et qui constitue le socle à partir duquel le blues s'est élaboré, et secondo, à partir des premiers blues ruraux enregistrés à la fin des années 20, qui ne doivent pas être si éloignés que cela des blues originaux. Si on prend les formes traditionnelles, il y a les chants de travail qui servaient surtout à supporter les travaux pénibles et à souder les liens entre les esclaves, appelés field holders quand ils sont chantés dans les champs de coton, et work song sur les chantiers. Construction de voies ferrées, de digues, etc. Ils sont construits sous la forme traditionnelle africaine d'appels et de réponses, et parfois ce sont les outils qui servent de percussion pour marquer le rythme. On va d'ailleurs voir cela dans un enregistrement de 1947, dans un pénitencier, et qui est tiré d'un disque remarquable, Negro Prison Song, il s'appelle Rosie. autre chant caractéristique, mais celui-là solitaire, la complainte d'un homme seul au contenu souvent dramatique. On écoute toujours tiré du même disque Negro Prison Song, Livy Camp Oller.
Oh Lord, I woke up this morning, man, I was feeling bad. Oh, babe, I was feeling bad. Well, I was thinking about the good time, Lord, I once have had. Well, Lord, oh, boy, she brought my breakfast this morning, and she didn't know my name, she didn't know my name. She said, give it to the long line skin of pain.
La musique religieuse a aussi été très importante. Les missionnaires blancs, dès le XVIIIe siècle, ont enseigné de force leur religion aux esclaves noirs et ils leur ont appris leurs cantiques religieux. Curieusement, les noirs complètement désocialisés et qui avaient besoin de se recréer une identité, une dignité, ont trouvé dans les textes de l'Ancien Testament, dans le récit des Hébreux captifs à Babylone ou en Égypte, le reflet de leur propre condition d'esclaves. Et bien sûr, ils ont adapté les cantiques à leur manière. Et cela a donné les négros spirituels. Chantés dans les églises noires, ils l'étaient aussi par des prédicateurs itinérants, plus proches des habitants et plus libres dans leurs interprétations. C'est l'un d'eux, un des plus impressionnants que je vous propose maintenant, le prédicateur baptiste et aveugle Blind Willie Johnson, né au Texas en 1902. Sa voix peut surprendre, puissante, elle est surtout très rocailleuse et c'est un excellent guitariste qui joue souvent une forme de bottleneck, mais avec son canif qu'il fait glisser sur les cordes. Découvert en 1927, il n'a enregistré pour la Film Columbia qu'une trentaine de titres jusqu'en 1930, dont beaucoup sont devenus de grands classiques. Le voici justement dans Nobody's Fault But Mine, repris par de très nombreux artistes, plus d'une centaine, dont Nina Simone, Otis Redding, Nina Hagen, Lucinda Williams, Robert Ford et Led Zeppelin notamment.
And nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine, but I don't need my soul be lost. I have a Bible in my home, I have a Bible in my home, but I don't need my soul be lost. Why they tell me how to read, why they tell me how to read, I don't need my soul be lost. Nobody's fault but mine. Oh, Lord. Nobody's fault but mine. I don't need my soul be lost. I have a Bible of my own, but I don't need my soul be lost. Oh, mother, she taught me how to read. Mother, she taught me how to read, but I don't need my soul be lost. Nobody fault but mine. No, no. Nobody's fault but mine. But I don't need my soul be lost. And so that she taught me how to read. So that she taught me how to read. But I don't need my soul be lost. Nobody's fault but mine. Oh, love. So that's bump and mine. I don't read my soul of belief.
Nous passons maintenant au blues rural avec un des premiers enregistrements effectués en mai 1930 par l'un des fondateurs du style Delta Blues, Charlie Patton, qui était alors déjà très populaire dans les États du Sud avant d'entrer dans un studio. Petit bonhomme qui ne payait pas de mine, c'était un chanteur puissant, charismatique, qui fascinait son public dès qu'il empoignait sa guitare. Autre chose, il avait du sang indien comme beaucoup d'autres d'ailleurs qui le revendiqueront par la suite. Muddy Waters, Howling Wolf, T-Bone Walker, Jimi Hendrix et bien d'autres. Ils furent en fait très très nombreux. Cela pour dire qu'on néglige souvent l'influence des musiques amérindiennes dans le blues. Mais je n'aurai pas le temps de développer ici. On écoute Charlie Patton avec son jeu de guitare percussif original. On entend un peu de souffle au début car c'est un repiquage de 78 tours. Donc Charlie Patton dans High Water Everywhere.
The backwater done rose around some hill, throw me down that line. Backwater done rose at some hill, throw Charlie down that line. And I tell that water, water, don't jump through this town. Lord, that old round. Lord, that old rock country, man, is overflow.
You know, I can't stay, I'm gonna go wild, fine, boy.
I won't go to the hill country, but it got me far. Now, look at y'all now, Lila, silver rising high. Look at y'all, boy, round Lila, Timmy. River's raging high.
Boy, it's rising over there, yeah.
I'm gonna move over to Greenville. Boy, I tell you goodbye. We had water down Lord, in the road. Road goes everywhere. The water and Greenville and Lille. Knowing that road everywhere.
Boy, you can't never see y'all.
I would go down the road, down, but tell me it's water now. Now the water now, mama, don't drop shawls it down. Well, now tell me the water, don't drop shawls it down.
Boy, I'm going to make work.
Well, I'm going to be fine, for I have mine. I am going out that water while it don't ever flow. Well, I'm going on a hill where water don't ever flow.
Boy, Shark is calling it still a ground shore.
Follow County 189 over at Tallahassee.
Boy, when Tallahassee, you gotta go over there.
Lord, the water that rests on that old Jackson. Lord, the water done raging over the Jackson Road.
Boy, you got my claws.
I'm going back to the hill country. Won't be worried no more.